Vous écoutez un podcast audio d'Oasis Église Rive-Sud.
Je suis content de vous voir ce matin. On fait un tag team, moi et Anna, ce matin, all right? Alors, moi je commence et Anna finit, OK? Le premier point, c'est Anna, mais ça va être à la fin. Ouais, vivez bien avec ça, ou pas, à vous de savoir, mais c'est comme ça que ça va fonctionner ce matin. On est dans une super série qu'on a commencé la semaine passée, et si vous ne l'avez pas écouté le message, s'il vous plaît, allez l'écouter sur l'Internet. Maintenant, les messages sont sur des choses que les vieux, on ne comprend pas, mais ça vient, où sont les messages maintenant dans le monde? Viens ici rapidement. Pour que les gens puissent écouter les messages de Pasteur Joël en allant au travail, dans le trafic, à Montréal. Comment on peut faire ça pour moi qui est la génération moins technique que la tienne?
Dans le fond, on a commencé à faire des podcasts audio. Actuellement, ils sont disponibles sur quelques plateformes, entre autres sur Spotify et sur Google Podcasts. Il devrait être disponible sur iTunes bientôt, là, dans les prochaines semaines. Donc, peu importe la plateforme de votre cellulaire, vous pouvez les télécharger en audio, les écouter sur la route, etc. Donc, ils vont toujours être en vidéo sur notre chaîne YouTube, mais en audio, vous pouvez les retrouver sur différentes plateformes.
Est-ce qu'il y en a qui ont pensé que c'était du chinois? Est-ce que ça en vient de dire? Oui, merci, je ne suis pas tout seul. Alors, j'ai aucune idée. On fera une feuille, on fera quelque chose pour que ma génération comprenne. J'ai tout compris les mots, hein, Spotify, Google, c'est des mots, mais comment aller les chercher? J'ai aucune idée. Alors, allez voir ensemble. Quelque part dans l'atmosphère web, nos messages sont là, right? Et vous pouvez les avoir audio et m'écouter, et vous, pas vous écouter, mais m'écouter ou écouter les différents prédicateurs de Oasis. All right, alors c'était une pause. Pour dire que la semaine passée, on a commencé un super message que vous allez écouter sur Spotify cette semaine, quand vous allez comprendre. Et juste pour faire un retour rapidement, pour que juste vous mettre dans l'ambiance, parce qu'on va parler de plusieurs aspects de la destinée sur nos vies. Et j'ai lancé l'idée la semaine passée de voir notre destinée, pas d'une façon macro, d'une façon grosse, inatteignable, qui des fois nous fait tellement peur qu'on ne rentre pas dans ce que Dieu a pour nous, et de voir notre destinée d'une façon tangible, micro, petite, quotidienne, au jour le jour, et que chaque processus de nos vies, chaque expérience de nos vies est une occasion pour nous de marcher dans ce que Dieu veut pour nous. Est-ce que ça fait du sens? Et ça va nous conduire là où Dieu veut nous conduire. J'ai écrit ceci, les petites choses quotidiennes de la vie déterminent les grandes choses à venir. On a lancé l'idée que les petites choses, d'être fidèle dans les petites choses, nous amène à voir l'autre chose que Dieu a pour nous. Que la destinée n'est pas une destination, mais plutôt un processus d'obéissance à chaque jour. Je peux attendre que la destinée me tombe dessus un jour en pensant que mon ticket de l'auto va sortir et là, pouf, je vais rentrer dans ma destinée. Mais on ne comprend pas que notre destinée est notre démarche quotidienne avec Dieu au jour le jour. Et que comme l'histoire de Joseph qu'on a regardé, que parfois nos pas en arrière sont un tremplin pour d'être propulsés dans ce que Dieu a pour nous. L'histoire de Joseph est extraordinaire. C'est une de mes préférées dans la Bible. Et est-ce que vous connaissez les slingshots? Qui a déjà eu des slingshots quand il était jeune? Qui a déjà pété une vitre avec un slingshot quand il était jeune? Merci pour les gens honnêtes. Qui a déjà blessé quelqu'un avec un slingshot? Non? Sam. Pas Sam, voyons, Simon. C'est pour ça que Simon est un chasseur. C'est monté jeune, cet esprit de... Anyway. Et le slingshot, la propulsion, vient d'un étirement par en arrière. Vous remarquez? Si on n'étire pas le slingshot, il n'y a pas de propulsion vers en avant. Et des fois, on est étiré d'une certaine façon où on pense que nos pas en arrière sont un échec, que nos pas en arrière sont un arrêt de notre destinée. Au lieu peut-être de les voir différemment et que si on réalise qu'on est fidèle dans ces moments d'arrêt ou de pas en arrière, que c'est peut-être une occasion pour moi d'être propulsé vers l'avant. Mais trop souvent, dans nos processus, on oublie qu'on doit être fidèle. Et des fois, on prend des décisions radicales qui tuent nos processus, qui tuent ce que Dieu est en train de faire, ou qui nous retardent de ce que Dieu est en train de faire. Et on a parlé aussi comment Dieu a des plans, des projets, Dieu a des idées pour nous, Dieu est intentionnel à penser envers nous. Et il y a un verset qui est un peu le verset de départ pour ce matin, qui parle encore de destinée, qui parle encore de plans de Dieu pour nos vies. Éphésiens 2, 8 jusqu'à 10 va dire ceci: « Oui, par sa grâce seule est la source de votre salut. » Qui dit « Amen » à ça ce matin? « Mais cette grâce, vous l'avez saisie par la foi. Rien ne vient de vous. Tout est un cadeau de Dieu. » Amen. « Et ce n'est pas en accomplissant les commandements que vous l'avez acquise. Tout mérite est donc exclu et du même coup se trouve écarté de toute raison de s'enorgueillir. » Ce n'est pas à cause de nos forces, ce n'est pas à cause de nos capacités, ce n'est pas à cause de notre obéissance au commandement qu'on est sauvé, c'est un salut donné gratuitement par Jésus. Amen. Et voici ce que ça dit au verset 10. « Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Il nous a recréés en Christ pour nous faire accomplir dans la communion avec lui les bonnes actions, d'autres versions vont dire les bonnes œuvres, qu'il a préparées depuis longtemps pour nous. Voilà la vie conforme à la volonté de Dieu, celle pour laquelle il a tout arrangé d'avance. Il a préparé notre chemin afin que nous n'ayons plus qu'à y marcher. » Wow! Et ce verset-là, simplifié, veut dire tout simplement, le salut nous recrée pour faire la différence. Ce texte est en train de nous dire, c'est que le salut en Jésus me recrée, je suis une nouvelle créature, et cette nouvelle créature est appelée à faire la différence dans ce monde. Qui dit « Amen » à ça? La parole de Dieu va dire, « Hey, il y a des plans, il y a des choses que Dieu avait prévues, et il veut qu'on marche dedans. Et à cause de son salut, on est encore plus propulsé à faire la différence dans ce monde et amener le royaume de Dieu. » Come on. Et cette propulsion, ou plutôt cette destinée est générale dans le sens d'apporter l'évangile du salut, de propager le royaume de Dieu, mais elle est spécifique à chacun de nous, à de savoir c'est quoi mon rôle dans cette généralité que Dieu nous propose, que ça fait du sens. C'est quoi votre rôle spécifique dans le rêve de Dieu, que tout soit sauvé, come on. Mais c'est quoi votre rôle à chacun d'entre nous? C'est quoi que Dieu nous appelle à faire? C'est quoi qui est sa volonté? C'est quoi qui est les endroits dans lesquels il aimerait qu'on marche? Et le titre du message ce matin, c'est d'avancer dans ma destinée. Qui veut avancer dans sa destinée? Ce n'est pas une question juste de la découvrir, c'est d'avancer dans la destinée. Comment j'avance dans les endroits que Dieu a préparés d'avance pour moi? Comment je découvre? Comment je vais dans ce que Dieu a préparé d'avance pour moi? Il y a trois choses qu'on va mettre de l'avant. La première chose, c'est la prière, et Anna va venir en parler à la fin. La deuxième chose, c'est les décisions, pour ceux qui prennent des notes. Et la troisième chose, c'est les relations. On avance dans notre destinée à cause des décisions qu'on prend. Décision. Qui prend des décisions dans sa vie? Qui a décidé de ne pas lever la main quand Joël dit de qui prend des décisions? Tout est une décision. Est-ce que vous avez remarqué? Tout est une décision. Les choix que je mange, les choix que je fais, tout est une décision. Mes actions sont une décision. Mes réactions sont une décision. Comment je réagis aux expériences de la vie? Comment je réagis aux insultes? Comment je réagis à peu importe ce que je vis? Tout ce que je vis est une décision, est un choix. Et la somme de mes décisions devient ma destinée. Est-ce que ça fait du sens? La somme, l'addition de mes suites de décisions devient ma destinée. Qui croit à ça? Parce que ma destinée est révélée dans le cœur de Dieu, mais elle est choisie parce que moi je fais. Est-ce que ça fait du sens? Et chaque jour, on fait des décisions. Et nos décisions, j'ai écrit ceci, devraient être déterminées par notre passion pour la personne de Jésus-Christ. Est-ce que ça fait du sens? Nos décisions devraient être basées sur notre passion pour la personne de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes passionné pour Jésus ce matin? Deux personnes. Est-ce que vous êtes passionné pour Jésus ce matin? Parce que Jésus devrait être au centre de notre vie et tout ce qu'on décide devrait être aligné avec ce que Jésus veut, avec les plans, avec ses désirs, avec sa volonté. Et je veux être un être, je veux être un enfant de Dieu qui est intentionnel à décider en lien avec ce que Jésus veut pour ma vie. Amen. Je veux le suivre, je veux m'aligner. Et d'avancer dans ma destinée demande que je suive Jésus pas à pas, là où il va. Je veux m'aligner avec Jésus qui est l'auteur de ma foi. Come on. Parce que si je ne m'aligne pas avec Jésus, si je n'aligne pas ma vie avec Jésus, ce qu'il a préparé, dans laquelle je veux marcher, il y a quelqu'un qui attend juste le fait de me faire dérailler. Il y a un ennemi qui dit, la parole de Dieu va dire qu'il y a un ennemi qui rôde, qui rugit, et son seul rêve, c'est de me faire dérailler de ce que Dieu a planifié pour moi. Il va utiliser plein de stratégies, pas toujours légales. Des coups en haut de la ceinture, des coups en bas de la ceinture, pour essayer de nous décourager, essayer de nous faire oublier, essayer de nous décentrer de ce que Jésus veut pour chacun de nous. Come on. Essayer de nous faire oublier qu'on a été recréé en Jésus pour faire la différence dans ce monde. Amen. On a tous un rôle à jouer. On a tous un mandat ici-bas. On a tous quelque chose que Dieu nous demande de faire. Et les décisions, les choix font partie intégrale de mon processus jour à jour dans ma destinée. Amen. Il y a quelqu'un un jour, un jeune homme dans la parole de Dieu qui a eu à faire face à prendre des décisions radicales pour sa vie. Et ce jeune homme-là s'appelle Daniel. Daniel est un jeune homme avec ses amis qui ont été changés de nom. Finalement, ils se sont fait appeler Shadrach, Meshach, Abednego. Ils étaient des enfants d'Israël. Israël a été pris en captivité par Babylone sous le roi Nebuchadnezzar ou Nebuchadnosor, tout dépendant de la version que vous utilisez. Et sous ce roi-là a dit, « Ramassez-moi les meilleurs d'Israël et on va les former pour devenir des Babyloniens d'excellence. » Et ça dit, on va les nourrir avec les rois, les mets du roi, toutes choses fastes que le roi pouvait leur nourrir. Mais Daniel, ça dit dans la parole de Dieu, et je vous fais fi du texte, mais il a dit, Daniel a résolu dans son cœur, même une version va dire, il a fermement décidé de ne pas se souiller avec ces choses-là. Wow! Et je crois que chacun d'entre nous, pour marcher, avancer dans notre destinée, nous allons faire face à des choix radicaux dans nos vies. Nous allons faire face à des oui et à des non qui ont des conséquences, mais Dieu nous appelle à le choisir pleinement. Et à prendre des choix radicaux qui nous amènent dans notre destinée. Les choix de Daniel ont affecté non seulement sa vie, mais une nation au complet. Est-ce que ça fait du sens? Je vais toujours me rappeler, peut-être pour vous ça peut sembler ridicule, mais pour moi, en tant que jeune homme de 16 ans, peut-être 17 ans, de faire ce genre de choix-là que j'ai fait, je le sais, a aligné ma vie avec plus de Dieu et mon futur. Vraiment, je vous l'ai déjà raconté, vous le savez, mais alors, je jouais au baseball quand j'étais jeune avant de jouer au golf. Et j'avais une autre passion, c'était le baseball. J'ai joué au baseball depuis l'âge de peut-être 7-8 ans. Mes parents venaient me voir à tous les matchs. Mais un moment donné, quand tu changes de catégorie, tu passes à une catégorie plus vieille, midget, junior, on appelle quelque chose qui s'appelle plutôt l'initiation. C'est de moins en moins populaire parce qu'il y a eu des extrêmes et maintenant on empêche presque de faire ça. Mais dans mon temps, les initiations, c'était la beuverie. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vécu des initiations sportives? Hein? Ou d'autres initiations, le cégep. Le cégep dans mon temps, c'était pénible. Mais ce soir-là, je savais que je vivais une initiation. Je savais que l'idée, c'est que tous les nouveaux soient sous à la fin de la soirée. Et moi, j'ai pris ce qui était une décision pour moi de ne pas me souiller à ce moment-là, de petit jeune qui a été élevé dans l'église, qui n'a jamais bu de la bière de sa vie, qui était dans une école chrétienne toute sa vie avec David. Et le monde, pour moi, j'étais dans Babylone. J'étais dans un monde qui ne m'appartenait pas. J'ai été élevé dans l'église, dans la Watt, dans un monde aseptisé où que le pire péché était de monter les marches du mauvais côté. D'accord avec ça, David? David, il rit parce qu'il sait que c'est vrai. Les pires choses qu'on faisait, c'était de parler avec le voisin par-dessus le panneau à l'école. On se faisait taper sur les doigts pour faire ces choses-là. Alors moi, d'arriver dans un contexte où que ça boit de la bière, ça sac, ça pêche, moi, je suis juste là pour jouer au baseball, c'est pas mon monde. J'étais comme Daniel dans Babylone. Est-ce que ça fait du sens? Et ce jour-là, j'ai décidé de ne pas suivre ce qu'on me demandait de faire. Peut-être pour vous, c'est ça peut sembler niaiseux, mais pour moi, je sais que ça a déterminé ma vie. Est-ce que ça fait du sens? Parce que ce soir-là, ma vie aurait pu devenir comme ceux qui voulaient que je sois à cause que j'avais peur d'être différent. J'aurais pu me saouler, je leur ai dit, je vais me saouler au Pepsi à la place. La pire décision de ma vie! J'ai failli mourir à caler du Pepsi. Un moment donné, après trois Pepsi, il se passe quelque chose dans la cage thoracique. Je ne savais pas, j'étais niaiseux. Et on ne m'avait pas appris que caler du Pepsi pouvait être plus dangereux, mortel que la bière, dans un sens. Et après trois Pepsi d'affilée, les autres étaient sous, étaient couchés dehors, presque tout nus à l'appui, mais moi, j'ai de la misère à respirer. Et un moment donné, je me suis donné un coup de poing sur la poitrine et le plus grand rot de ma vie, jamais égalé. Peut-être que ça aurait été un record mondial si on l'aurait calculé. Mais tout mon être, on dirait qu'un âme est sorti de moi à ce moment-là et j'ai roté le rot de ma vie. Mais ce soir-là, j'ai résisté. Juste pour vous imaginer, les gars sous, les filles, juste pour le fun, les filles pratiquaient le même âge que nous qui jouent au baseball, pratiquaient sur le terrain, et ils ont envoyé mes amis tout nus avec leur jazz strap courir dans la pluie. Et moi, j'ai dit non à ça, merci Seigneur. Mais je sais que c'est une décision difficile au moment où j'étais dans ma vie d'un petit jeune de 16 ans de se tenir pour Dieu. Merci. Il y a au moins quelqu'un qui est content. Et mes parents applaudissent pas, je ne sais pas pourquoi. Anyway. Et merci, maman. Et je suis un fils unique, hein? Mais je sais que ma vie aurait pu prendre une totale destinée à cet âge-là. Parce que j'ai d'autres de mes amis qui étaient élevés dans la même saison que moi et qui n'ont pas pris les mêmes décisions. Et aujourd'hui, je ne les revois plus dans l'église. Et je prie que Dieu les ramène à la maison. Amen. Juste pour vous dire que vous allez être appelés, peut-être différemment, mais nous sommes appelés à prendre des décisions radicales qui plaisent à Jésus et qui ne plaisent pas au monde. Amen. Et c'est ça qui va influencer et nous faire avancer dans notre destinée. De prendre des décisions que même que des fois vont être calculées, sachant qu'il va y avoir des conséquences, mais on le fait pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Et on doit prendre et apprendre à faire ces décisions radicales. J'y vais rapidement, mais on doit s'aligner, on doit aligner. Comment on fait ces décisions radicales-là? On doit aligner les désirs de nos vies, les pulsions de nos vies avec Dieu. Qui dit amen à ça? Qui sait que des pulsions humaines charnelles qui ne sont pas mises sur l'Esprit de Dieu ont tendance à nous faire dérailler? Même en tant que leader, on n'est pas mieux que personne. Je vois tellement des fois de gens leaders, des pasteurs aujourd'hui qui tombent. Pourquoi? Parce qu'on devrait toujours mettre nos désirs soumis à la parole de Dieu, soumis à l'Esprit de Dieu. Parce qu'on est tous tentés de différentes manières. Vous d'accord avec ça? Mes combats ne sont pas vos combats. Vos combats ne sont pas celui à côté d'eux, mais on doit aligner nos désirs avec le plan de Dieu. 1 Corinthiens 9 va dire, c'est pourquoi je cours les yeux fixés sur le but, en parlant de destinée, de courir dans notre destinée. C'est pourquoi je suis semblable à un boxeur qui ne frappe pas au hasard et je traite durement mon corps et je le maîtrise sévèrement afin de ne pas être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Wow. Paul va dire ça, il dit, « Come on, il y a tellement de pulsions dans ce monde aujourd'hui que je dois le tenir soumis devant Dieu parce que je ne veux pas être celui qui disqualifie la parole et qui disqualifie le message à cause de mes actions. » Wow! Amen? Non seulement je veux mettre mes désirs alignés sous Dieu pour marcher dans ma destinée, mais je veux aligner mes affections. Je veux aligner les choses dans lesquelles mon cœur s'affectionne de mes émotions, d'aligner aussi mes pensées vers Dieu. Est-ce que ça fait du sens? D'aligner toutes les affections de mon cœur. Je peux avoir des affections qui m'éloignent de ma destinée. Je peux avoir des choses que je mets dans ma vie qui vont retarder ma marche, qui vont limiter ma marche parce que je m'affectionne des choses d'ici-bas au lieu de m'affectionner des choses d'en haut. D'aligner mes pensées. Vous savez, les pensées, les affections sont des bons serviteurs, mais ce n'est pas des bons maîtres. Jésus doit être le maître de nos vies. La parole de Dieu doit être le maître et le guide de notre vie. Il y a un texte dans Romains 12, 2, et j'aime la version parole de vie. Et ça, c'est de l'alignement, frères et sœurs. Ça dit, ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir quoi? Discerner ce que Dieu veut de vous. Comment? Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et ce qui vous conduit à une réelle maturité. Comment? Et on veut avoir une affection et des émotions et des pensées alignées avec le plan de Dieu, alignées avec ce que Dieu veut. Non seulement ça, on doit aussi apprendre à aligner nos croyances. Ce que nous croyons est tellement important. Ce que nous croyons peut nous amener à gauche ou à droite. Et une mauvaise croyance ne porte jamais de fruit. C'est-à-dire, 1 Timothée 1,19, c'est Paul qui parle, il dit « Maintiens fermement ta foi et garde ta conscience intacte. Certains, hélas, se sont affranchis d'elle. » Dans le sens, ils ont oublié d'avoir une bonne confiance, d'avoir une bonne conscience, excusez, et n'ayant pas voulu écouter ses avertissements, et leur foi a fait naufrage. Wow! Qui sait que le Saint-Esprit lui parle? Vous n'avez pas l'air sûr. Qui sait que le Saint-Esprit lui parle? Qui sait que le Saint-Esprit parle à notre conscience? Qui sait même que Dieu nous crée une conscience pour qu'on soit capable de discerner avec sagesse aussi ce qui est bien et qui est mal? Et des fois, on perd la conscience. On perd de laisser l'Esprit de Dieu, un esprit de révélation et de sagesse nous animer et on fait naufrage par rapport à notre foi. Et dernière chose, nous devons aligner nos attitudes. Philippiens 2, 5 va dire ceci, que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Et le contexte parle d'humilité, que Jésus n'a pas vu comme une perte de descendre, de marcher ici, mais que Dieu l'a relevé, que tout genou fléchira devant sa gloire. Comment? Ayez la même attitude, et c'est un contexte d'humilité. Qui sait que l'humilité nous fait marcher dans notre destinée encore plus? Les décisions sont tellement importantes, j'en ai parlé la semaine passée. J'ai dit, dans un processus spirituel, une réponse charnelle va donner un résultat charnel. Est-ce que ça fait du sens? Donc, y a-t-il un autre message qui fonctionne en même temps que le mien? Quelqu'un s'est plugué sur Spotify. Amen. Alléluia. Quelqu'un a réussi. Et je suis en train de dire, dans le fond, si dans une situation X, l'humilité devrait être ma réponse spirituelle, si je réponds avec orgueil, mon résultat va être la résultante de l'orgueil dans ma vie. Est-ce que ça fait du sens? Et l'orgueil précède la chute. Je vous encourage, frères et sœurs, dans tous les processus que vous vivez, les situations, d'avoir une réponse spirituelle pour avoir un résultat surnaturel. Amen. Des fois, on manque d'avancer dans notre destinée parce que nos réactions au processus dans lequel nous sommes. Et je l'ai dit, c'est quoi un processus? Un processus, c'est tous les événements de vos vies. C'est le jour à jour, le day-to-day de vos vies, les défis, les expériences, les bonnes journées, les mauvaises journées, les réussites, les échecs. Tout ça, c'est le processus de nos vies. Et une réponse charnelle à un processus spirituel où que Dieu nous transforme de gloire en gloire pour faire la différence va mettre des bâtons dans les roues de la destinée et dans laquelle Dieu nous appelle à marcher. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Deuxième chose, que je vais laisser la place à Anna, c'est que non seulement nos décisions nous font avancer dans notre destinée, mais nos relations nous font avancer dans notre destinée. Qui a des relations humaines ici? Si tu es marié, tu as une relation à quelqu'un d'autre. Avez-vous des enfants? All right. On a tous des frères et sœurs, des parents, on est tous des amis, on a tous plein de relations. Et même si la destinée de Dieu est unique à chacun d'entre nous, et 2 Timothée 4, 7, 8 va dire ceci, c'est Paul qui parle encore, qui dit, « J'ai combattu jusqu'au bout le bon combat. » Il va dire, « J'ai achevé quoi? Ma course. » Come on. On a tous une course. Tu as une course, j'ai une course, vous avez une course. Chacun d'entre nous, on a notre propre course pour Dieu. Des fois, quand j'étais pasteur jeunesse, les jeunes me demandaient, avec qui me marierais-je? Une bonne question normale, all right? Et je leur disais, cours le plus vite possible pour Dieu. Puis regarde à gauche et à droite qui court à la même vitesse que toi. Puis il y a des bonnes chances qu'une de ces personnes-là soit ton futur époux ou épouse. C'est bon, hein? Moi aussi, je trouvais ça. Parce que des fois, on cherche à gauche et à droite, mais je vous dis, courez le plus vite possible pour Jésus. Et s'il y a des gens qui courent à gauche et à droite, tenez-vous avec ces gens-là. Come on. Que ce soit pour trouver une femme ou une épouse, ou que ce soit même pour marcher dans votre destinée, courez avec des gens qui courent à la même vitesse que vous. Come on. Ça dit que la couronne de la victoire, c'est-à-dire la justice parfaite éternelle, est déjà préparée pour moi. Il ne me reste plus qu'à la recevoir. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra au jour du jugement. Come on. Et on est tous appelés à courir une course. Mais savez-vous quoi? Je ne crois pas qu'on est appelé à courir seul. Ma destinée est aussi reliée à ta destinée. Amen. Ma course est aussi reliée avec ta course. Je ne peux pas, j'ai écrit ceci, j'ai dit, la dernière fois que j'ai lu ma Bible, on est un corps. Vous êtes silencieux. La dernière fois que j'ai lu ma Bible, l'Église de Jésus-Christ est un corps. All right? Ça fait un petit plus de sens. Ah, okay. Je le prends sur moi, OK? L'Église de Jésus-Christ, la main doit trouver le poignet. Le coude doit trouver le bras. Le genou doit trouver la cuisse. All right? Et nous sommes un corps. Et sans l'un, sans l'autre, on ne peut pas pleinement marcher dans la destinée que Jésus nous a recréée pour faire la différence. Come on. J'ai besoin de chacun d'entre vous. Un pasteur ne peut pas accomplir la destinée pour le Québec tout seul. Vous auriez dû dire le plus grand amen possible de votre vie ce matin. Je ne peux pas accomplir tout seul. J'ai besoin de vous. Et même si on peut accomplir des choses tout seul, je crois que Dieu nous a mis ensemble pour accomplir encore plus. Moïse avait Aaron, Ruth avait Naomi, Josué avait Jacob. Come on! Non, Caleb. Je me suis surpris avant que vous me le disiez. Jésus envoyait les disciples, comment? Deux par deux. Dieu nous a dit d'être quoi? Mari et femme. C'est pas bon que quoi? Que l'homme soit seul, maison. Il n'est pas capable de faire son lavage. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et Dieu a mis l'homme et la femme ensemble. Pourquoi? Même Dieu a dit, un va tuer mille et deux va tuer 10 000, il y a cette force dans l'unité, dans les relations, et de trouver la tribu dans laquelle on veut servir Dieu ensemble. Come on. Amen. Amen. Il n'y a plus de marche ici, c'est rendu loin. Et Dieu nous appelle à se tenir ensemble, de faire la différence. Nous ne sommes jamais seuls dans notre destinée. Sean Bowles, vous connaissez Sean Bowles, qui est mon ami, qui est déjà venu au JU, a dit ceci dans un de ses livres. Il dit, ta destinée n'est pas autant les choses que tu vas faire, autant les gens que tu vas aimer. Wow! Et des fois, on pense que notre destinée est dans les choses qu'on va faire, mais si on commence à regarder aux gens qui sont autour de nous, on va s'apercevoir comment notre destinée est reliée avec les gens qu'on aime. Et on ne peut pas changer de nation si on n'aime pas les gens de cette nation-là. On ne peut pas changer notre entourage si on n'aime pas les gens de notre entourage. On pense que notre destinée, c'est-à-dire je vais faire les grandes choses pour Dieu. Si je ne suis pas capable d'aimer la personne qui est en devant de moi, je ne pourrai pas aller plus loin que ça pour influencer pour le royaume de Dieu. Amen. Il y a notre ami Heidi Baker, peut-être je me trompe, mais qui dit ceci, de « Love the one ». Aime celui qui est devant toi. Commence par la personne qui est devant toi et Dieu va ouvrir des portes pour plein de choses. Mais commence à aimer la personne devant toi. Souvent, dans l'idée un peu corrompue du ministère, on pense que Dieu va nous appeler à prêcher devant des milliers et on a de la misère à juste prêcher à la personne qui est à côté de nous. La personne qui prêche devant des milliers a commencé à prêcher à la personne à côté de lui. Come on. Alors, je dis ceci, j'ai dit, faites attention à vos relations. Avec qui te tiens-tu? Il y a un dicton, je crois que c'est celui-là, peut-être vous me corrigerez si je me trompe, mais qui dit souvent, on dit, dis-moi à qui tu te tiens, je vais te dire qu'est-ce que tu vas devenir. Ça vient probablement du Proverbe 13:20 qui dit ceci, celui qui marche en compagnie des sages devient sage, et celui qui fréquente des hommes stupides se retrouvera en mauvaise posture. 1 Corinthiens 15, 33, on le connaît, même le monde connaît ce verset-là, qui dit, ne vous y trompez pas, quoi? Les mauvaises compagnies qu'auront les bonnes mœurs. Partout dans ce monde, on récite ce verset-là. Il est impossible de négliger le fait que notre destinée se retrouve et est affectée par les gens qui nous entourent. C'est impossible. Vous connaissez peut-être cette histoire, ou peut-être pas, mais je vais vous la raconter, c'est l'histoire de Saül, le roi Saül. Et quand le prophète Samuel est allé le oindre pour devenir roi, il a dit à ceci, il a dit à Saül, il dit, va dans un village que je vais vous éviter le nom. Et il a dit ceci, tu vas rencontrer à la porte, tu vas rencontrer une compagnie de prophètes et tu vas te tenir avec eux et tu vas prophétiser et tu vas être changé à un autre homme. Et j'aime cette idée que si je viens à une relation avec un groupe qui est passionné, ça va aussi m'emmener à un endroit où je vais être plus passionné. Avec qui tu te tiens? Je veux me tenir avec des gens qui vont propulser mon destinée plus qu'ils vont rappeler mon histoire du passé. Je veux me tenir avec des gens qui vont propulser qui je suis, qui vont réveiller la destinée qui est en dedans de moi. Come on! Qui va m'encourager, qui va me bâtir, qui va me relâcher, qui va me croire en moi. Pas parce que je ne veux pas entendre les vérités à mon sujet, mais j'ai besoin de gens qui vont plus voir le potentiel qui dort en moi de ce que je n'ai pas encore accompli. Et ça dit que Saül a été changé à un autre homme parce qu'il s'est tenu avec des gens qui connaissaient la parole de Dieu, qui prophétisaient pour Dieu. Et il y a ce genre de gens-là que tu tiens avec qui changent ta vie complètement. J'ai beaucoup de relations. Par la grâce de Dieu, Dieu nous donne de connaître des gens extraordinaires, des pasteurs, des évangélistes, des ministères incroyables. Mais il n'y a jamais personne à date, même s'ils ont eu un gros impact, tous ces gens ont un gros impact sur nos vies, il n'y a jamais personne que je me suis senti autant propulsé dans ma destinée que Paul et Denise Goulet. Des pasteurs à Las Vegas qu'on a rencontrés il y a quoi, 12, 13, 14, 15 ans peut-être. Et ces gens-là, à leur contact, tu as le goût d'être meilleur. Tu as le goût de tout lâcher puis suivre Jésus. Parce que l'image qu'ils nous donnent, c'est une vie qu'eux ont décidé de moi, j'ai tout abandonné à Jésus. Et tu ne peux pas être encouragé. Et on doit devenir ce genre de personne-là, sachant que Dieu m'a mis dans votre vie pour vous propulser et Dieu vous a mis dans ma vie pour propulser dans ma destinée. Est-ce que ça fait du sens? Et on veut être de ceux qui s'encouragent, qui se bâtissent. Alors, il faut faire attention. Choisissons avec qui on se tient. On veut choisir des gens qui nous inspirent. Et je finis en disant, avec qui t'entoures-tu? Les gens à qui tu donnes accès à ton cœur et à qui tu te permets de t'influencer vont impacter comment tu fais la destinée, comment tu marches dans ta destinée, pour mieux mettre ça. Parlez-en à Josué et Caleb si les gens avec lesquels tu tiens affectent ta destinée ou pas. Que eux étaient prêts, voyaient la vision, voyaient ce que Dieu voulait faire, croyaient en la promesse de Dieu qui a dit « Rentrez-y parce que je vous le donne. Vous n'allez même pas avoir à combattre. Je vous le donne. Les gens vont fuir devant vous, devant le pays promis, devant le pays de Canaan. Et à cause qu'il y a 10 personnes avec elles qui se tenaient, ont un discours différent, la destinée de Josué et Caleb a été retardée pendant 40 ans. Moi, je veux tenir avec des gens qui courent aussi vite que moi. Pas parce que je n'aime pas ceux qui courent moins vite. Je veux que tout le monde court vite. Je veux que tout le monde y avance. Mais je veux m'assurer que je m'entoure avec des gens qui me font courir et qui m'encouragent à courir et d'avancer. Et la capacité de prendre des conseils et de recevoir la vérité avec l'amour, lors de donner des conseils, de recevoir des conseils est tellement important. Dans Proverbes 11:14, ça dit « En l'absence de directive, le peuple tombe. Le salut réside, quoi? Dans un grand nombre de conseillers. » Avez-vous des gens autour de votre vie qui peuvent vous conseiller à marcher dans votre destinée? Y a-t-il des gens qui ont le droit de parler dans votre vie sans que vous allez vous offenser? Je suis toujours intéressé ou plutôt ébahi. Et quand quelqu'un me demande de parler dans sa vie, quand je parle dans sa vie, ça ne fait pas plaisir et est insulté par ça. Et si on demande des conseils, puis quand on reçoit des conseils, on s'insurge vers ce conseil-là, peut-être qu'on devrait réaliser qu'on ne veut pas de conseils. Mais ça dit que le salut est dans le grand nombre de conseillers. Souvent, quand on prend des décisions, on appelle un, on parle à l'autre, on se consulte en gang. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il y a de la sagesse à s'entourer de d'autres personnes qui cherchent Dieu aussi. Et qu'on ne voit pas tous la même façon. Et que des fois, on regarde d'une façon qu'on ne voit pas, qu'on a besoin de l'autre pour nous aider à voir de comment on peut voir toutes les perspectives qui sont autour. Vous connaissez peut-être cette histoire-là il y avait 5 aveugles et on leur a donné, ils leur faisaient toucher à quelque chose, à un éléphant, et on demandait après, c'est quoi votre impression, c'est comment vous avez vécu cet éléphant-là. Puis l'un disait, mais écoute, c'est d'aveugles, ils ne savent pas, mais il dit, ça ressemble à un tronc. Ça ressemble à un tronc, l'éléphant, ça ressemble à un tronc. Parce qu'il tenait sa patte. L'autre, il va dire, écoute, je ne sais pas, mais ça ressemble à une couverte qu'on peut brasser et ça a l'air mou et ça a l'air souple. C'est parce qu'il tenait son oreille. L'autre, il dit, non, non, un éléphant, ça ressemble à un boyau. Ça ressemble comme un boyau de pompier. C'est parce qu'il tenait sa trompe. Et des fois, on peut avoir la même chose, mais tenir un morceau différent qui, ensemble, dans le fond, nous amène à regarder le casse-tête comme il faut. Amen. Et je ne sais pas si tu veux te préparer, mais ma dernière histoire est ceci. Je ne sais pas si vous vous rappelez du fils de Salomon. Salomon a été réputé pour être quoi? Un roi qui était sage. Et son fils, Roboam, le peuple disait ceci, le peuple disait, est-ce que tu pourrais soulager la pression sous laquelle ton père nous a mis, le joug sous lequel ton père nous a mis, Salomon? Il est allé voir des conseillers et le conseiller, ses conseillers qui étaient les conseillers de Salomon lui ont dit ceci. Elle dit, « Hey, si tu es bon envers eux, ils vont te servir à jamais. » Et ça dit, puis ensuite il s'est retourné et il est allé voir ses vieux chums qu'il a grandi avec quand il était jeune. Et eux autres, ils ont dit, « Dis-leur à la place, au lieu de les soulager, dis-leur que mon doigt est plus pesant que les reins de mon père. Et que si vous ne suivez pas ce que je dis, je vais apaiser le joug. » Savez-vous qu'est-ce qui s'est produit sur le règne de Roboam? Israël s'est divisé en deux. La destinée d'Israël a été affectée pendant des années. C'est tellement important de réaliser que pour avancer dans notre destinée, il faut regarder, prendre des décisions radicales. Même contre le cœur, contre l'homme, pour servir Dieu. Et deuxième chose, il faut s'assurer de s'entourer parce que nos relations font partie de notre destinée. Au moment que tu te maries, ta destinée change. Avez-vous déjà remarqué? Au moment que tu as des enfants, ta destinée change. Ça ne veut pas dire que tu n'accomplis rien pour Dieu, c'est juste que maintenant, les paramètres ont changé. C'est la même chose avec nos relations. Et le troisième point, qui était le premier point, est la prière, et c'est la plus belle femme de ce monde qui va la faire. Amen. Je t'aime.
La prière. C'est, honnêtement, j'avais raison, on aurait dû commencer avec ça, parce que je crois que c'est là que ça part. Et c'est quand même pas évident de prêcher après ton mari quand lui est full exubérant, saute en bas, remonte, raconte tout. Écoute, moi, dans son message, il y a 3 ou 4 messages. Je ne sais pas comment il fait pour tout rentrer, mais mon cœur, c'est que aujourd'hui, on comprend c'est quoi la prière. Et pas juste le comprendre, mais s'engager à dire, je peux pas avancer dans ma destinée sans prier. Je peux pas avancer dans ma destinée sans en faire une habitude. Je veux commencer juste par vous dire un petit peu... La Bible parle de la prière à 650 différentes occasions. À quelque part, Nouveau Testament, Ancien Testament, c'est un sujet qui est proche et important pour le Père. 450 de ces occasions-là, il y a eu une réponse aux prières. Donc, c'est vrai qu'il était inscrit, qu'il est écrit. Fait que des fois, la réponse qu'on cherche ou on ne l'entend pas, mais Dieu répond aux prières. Jésus y est noté 25 de ses prières dans l'Ancien Testament, Nouveau Testament. La prière, on nous a enseigné quand on était jeune, moins jeune maintenant, la prière, c'est de la communication. Mais en faisant des recherches, et vous savez comment j'aime les mots, mais dans le grec, le mot c'est prosuxomé et une des définitions dans Strong's, c'est celle-ci. C'est l'interaction avec Dieu pour échanger nos idées ou souhaits humains pour les siens. Joël y parlait de avancer dans notre destinée, c'est dans les petites choses. La prière, c'est pas une réunion de prière une fois de temps en temps. La prière, c'est une démarche quotidienne. La prière, c'est pas quelque chose qui... Je vais vous lire la parole de Dieu tantôt. Mais si on peut juste comprendre, c'est pas quand que je vais mal que je crie au Seigneur. Oui, je crie au Seigneur dans ces moments-là aussi. Mais la prière est quelque chose que j'ai besoin pour le connaître. Pour... Si je prends cette définition dans Strong's du mot grec, je prends mes façons de penser et je les échange pour les siennes. Je vous donne un exemple concret. On est tous dans des relations, Des fois des bonnes, des fois des moins bonnes, mais même dans les bonnes, des fois ça va mal. J'ai mon mari, je t'aime chérie, j'ai dit avant, j'arrive devant le Seigneur, puis j'ai dit, « Seigneur, Joël Dumaine, l'homme avec qui je suis attachée depuis 22 ans, il y a ça, 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 ça. Excuse, il y a ça et ça. » Et soudain, si je rentre dans cette interaction-là, le Seigneur me dit, « Oui, mais Anna, voici ce que moi je dis de Joël Dumaine. Voici pourquoi je l'ai mis dans ta vie. » Et ma perspective, qui peut-être à un certain moment est en colère, ou à un certain moment est amère, et j'arrive devant le Seigneur, puis « Ah, tu sais, je suis capable d'être vrai avec lui, fait que je dis tous mes états d'âme. » Mais si je rentre dans le but de la relation, de la prière, il va interagir avec moi, échanger, switch. En anglais, le mot, c'est « il va switch ». Il va dire « OK, donne-moi-les, j'ai tout entendu ce que tu avais à dire à son sujet. Maintenant, voici ce que je veux que tu penses. Voici ce que je veux que tu réalises. » Et il y a un switch qui se passe. Seigneur, je suis bonne à rien, je ne suis pas capable de faire ci, je ne suis pas capable de faire ça. Moi, j'ai tout entendu. Maintenant, on peut-tu faire le switch? Puis je veux juste que vous compreniez que sans la prière, on ne peut pas avancer dans notre destinée avec Dieu. Parce qu'on reste dans notre façon de penser. Sans la prière, je vais le divorcer. C'est... Amen. Comprenez. Puis je ne dis pas, j'aime mon mari, on va bien, inquiétez-vous pas. Mais comprenez-vous, sans la prière, j'abandonne dans mes relations. Sans la prière, mes décisions de tantôt que Joël y parlait ou les relations dans lesquelles je vais être, peut-être ce n'est pas les bonnes. Mais quand je rentre dans la prière et je partage et j'arrive dans cet échange-là, cette interaction avec Dieu, où que oui, je communique avec lui, je lui partage, je suis capable de non seulement partager, mais entendre ses pensées à tel sujet, au sujet de mes relations, au sujet de mes finances, au sujet de mes amis, au sujet de mon mari. Et ses plans, ses pensées pour mon mari sont aussi nombreuses que le sable. Ses pensées, ses plans pour mon mari, c'est des plans de bonheur et non de malheur. Et quand tout d'un coup, je m'aligne avec lui dans la prière, je commence à avancer dans ma destinée. Maintenant, parlons quotidien. Je ne vous le demanderai pas, mais on serait surpris de savoir le nombre de temps que, mais là, c'est sûr, on ne se met pas dans ce bateau-là, mais que l'autre à côté prie, vraiment. Puis je ne parle pas de, je pense qu'il y a des saisons de notre vie. Je vais être franche, il y a eu une saison que j'avais 3 bébés. Ils me réveillaient 12 fois par nuit. Puis je niaise pas, ça c'était le... Les 5 premières années, Ah! Puis je pleurais, puis je disais, Seigneur, j'ai pas le temps de lire ma Bible, je suis trop fatiguée. Seigneur, je sais même pas quoi te demander, excepté endormir. Puis le Seigneur, il m'a dit, ah non, juste mets de la louange. Il n'y avait pas de. L'engagement, c'était juste sois dans ma présence, c'était tout. Mais comme ils vieillissent et commencent à dormir, le Seigneur dit, « Hey, yo, je suis prête. On peut-tu se rasseoir ensemble? » Et dans le quotidien, c'est important d'avoir un engagement, de dire, « Je vais prier. Je vais prendre le temps. » Pas juste en marchant, faisant la vie. Moi, je parle au Seigneur à journée longue. Moi, je suis vraiment comme ça. J'y parle dans mon champ, j'y parle tout le temps, tout le temps. Mais il y a une place avec vivre ma vie avec Joël, parce qu'on travaille ensemble, on est 24 heures sur 24 ensemble, on fait tout ensemble, à part jouer au golf, parce que le Seigneur m'a délivré. Je prie encore pour lui. Mais, ça me prend quand même des dates avec mon mari. Ça prend quand même des temps où que on se met à, on s'engage envers, l'un envers l'autre à dire, hey, on fait-tu juste pas parler de la job, pas parler des enfants, puis juste rêvons ensemble. Et il y a une place qu'il faut revenir à cet engagement-là. Peut-être, avec le Seigneur, votre capacité d'engagement, c'est 5 minutes par jour. Mais je vous encourage d'aujourd'hui, pas quitter cet endroit sans dire, hey, 5 minutes, pas à lire ma Bible, mais à parler avec le Seigneur et à l'écouter. Si on parle pratico-pratique, en se levant le matin, on devrait toujours commencer notre journée avec le Seigneur. Ça devrait être un plus fort que nous. C'est pas « je m'en vais », peu importe ce que vous faites, je ne sais pas. C'est « Seigneur, je veux t'inviter dans cette journée. C'est quoi tes pensées pour cette journée? Moi, j'ai déjà mon plan, mais je te soumets ma journée. Je veux ta joie. Je veux être rempli d'amour pour face à ceux que tu vas mettre devant moi, ceux que je dois aimer. Ça, commencez votre journée là. Après, il y a chaque repas. Des fois, on dit, ah oui, mais ça, c'est tu sais, la tradition, c'est légaliste, il faut faire ci. Et pourquoi que ça ne serait pas juste une autre opportunité pour qu'on lui parle? Pourquoi que ça, faut que ça soit, je vais dire la prière à ma fille, bénis la nourriture et campe tes anges autour de nous. Pourquoi qu'il faut que ça soit toujours la même? Non, pourquoi que ça ne serait juste pas, hey, on t'aime, Jésus. Juste un moment où qu'on communique avec lui. Il y a, avant le coucher, je vous encourage, parents, priez avec vos enfants. Priez, bénissez-les. Relâchez votre bénédiction sur eux, mais priez avec eux. Avant qu'ils partent pour l'école, prenez toutes les occasions pour les amener dans une vie de prière. Et vous allez voir qu'après une journée, ah, écoute, j'ai prié 6 fois aujourd'hui. 6 fois, 5 minutes, ça fait 30 minutes. Hein? OK, hey, j'en veux plus. On fait face à un problème. Hey, je vais prier. Seigneur, c'est quoi tes pensées? Moi, je vois ça. Comment j'ai besoin de cette interaction-là? La prière n'est pas autant. Oui, j'apprends à connaître Dieu, mais c'est l'endroit où que lui déverse en moi sa pensée. Vous savez, la parole de Dieu dit que, c'est un de mes versets que j'aimais quand j'étais jeune, ça dit en 1 Pierre 2,9, ça dit « On est une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. » Je vais retourner à « sacerdoce royal ». Un de ces mots de la parole de Dieu. Terrible, hein? Je ne suis même pas rendue à ma première phrase. Sacerdoce royal, un sacerdoce, c'est la prêtrise. C'était les prêtres. Et les prêtres, c'était ceux qui priaient le plus. C'était ce qu'on appelle aujourd'hui des intercesseurs. Il y avait deux choses, deux façons dont ils priaient. La première, c'était qu'ils arrivaient devant Dieu. Et il y avait cette relation-là avec Dieu. Il y avait un échange qui se faisait avec Dieu. Il y a un autre verset juste avant qui dit que c'était une prêtrise sainte. Il devait avoir un style de vie pour que Dieu les parle. Il y avait cette relation-là. Mais un intercesseur aussi, c'est quelqu'un qui vient entre Dieu et l'autre. Que l'autre soit notre mari. J'espère que les femmes, les hommes, vous priez pour vos maris, vos femmes. Que l'autre soit nos enfants. Que l'autre soit notre voisin. Mais on a un rôle, oui, de parler avec Dieu. Mais on a un rôle de prier pour. Et de se tenir entre. Parce que le prêtre, dans l'Ancien Testament, il venait devant, dans le lieu très saint. Il offrait des sacrifices. Et après, il amenait le peuple. Et entre le sacrifice et la présence de Dieu, il y avait le prêtre. Ça, c'est notre rôle. Et si je peux juste vous faire allumer au fait qu'on a un rôle d'être des intercesseurs. On est appelé une race royale, un sacerdoce royal. Dites-le avec moi, je suis un sacerdoce royal. Si vous êtes un sacerdoce royal, et je suis un sacerdoce royal, on a besoin de se mettre, se tenir à la brèche pour prier pour ceux qui nous entourent. On doit développer cette vie de prière-là, mais on doit prendre des temps où que corporativement, on prie. On a des temps, savez-vous qu'à tous les dimanches, de 9h à 9h30, ici sur le côté, on prie. Ça m'impressionne comment on peut être 2, 3, 4. Pourtant, c'est un appel à tous. Et on prie pour cette réunion, on prie pour les uns les autres. S'il y a un nouveau, on prie pour cette personne-là. C'est pas juste à Émilie de le faire. Je vous invite officiellement, dimanche prochain, 9h. On est appelé à prier les uns pour les autres. On est appelé à prier ensemble. On est appelé à vivre et avancer dans cette démarche de prière constamment. Notre destinée est reliée, à notre vie de prière. On va avancer dans notre destinée au pas de notre prière. Tous les mardis de 8h30 à 9h30, on prie ensemble. Je sais, on travaille, puis il n'y a pas de... Mais si vous ne travaillez pas, je vous invite. Si vous êtes à proximité, je vous invite. En terminant, je veux juste vous lire quelques passages parce que j'ai appris quelque chose avec Richie que je n'avais jamais compris avant. Parce que quand tu es avec Richie Seltzer, il va parler, puis il dit un verset, il parle, puis je dis « Richie! » Tu parles avec des non-croyants, tu leur dis des versets comme ça, puis il m'a dit, Anna, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et s'ils n'entendent pas la parole de Dieu, comment est-ce que leur foi va grandir? Alors moi, je veux faire grandir votre foi. Jacques 5, 16 dit ceci, « La prière du juste agit avec une grande force. Élie, qui était un homme comme nous, a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas. Il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis, il a de nouveau prié et le ciel a donné de la pluie et la terre a produit son fruit. Dieu entend nos prières. Il répond à nos prières et il agit en réponse à nos prières. Matthieu 17 dit ceci, « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici jusqu'à là, et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Et dans 2 Corinthiens 10, ça dit ceci, en effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu, et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Là, j'entends des « Amen » partout, c'est bon. Éphésiens 6 dit ceci, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et supplications. Veillez, qui veut dire ne pas s'endormir, mais veillez à cela avec une entière persévérance en priant pour tous les saints. » Donc, on doit prier les uns pour les autres. Il y a de la prière, la puissance dans la prière, et cette puissance est démontrée dans les résultats de nos prières d'un Dieu qui est tout-puissant. 1 Jean dit ceci, « Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, dans le grec, ça veut dire ses désirs, il nous écoute. » Par la prière, l'ennemi est vaincu. La mort est vaincue. On a la guérison. Les démons fuient. Dieu, par la prière, ouvre les yeux, change les cœurs, guérit les blessures, accorde sa sagesse. La prière ne devrait jamais être sous-estimée. Elle attire la gloire et la puissance de Dieu. J'aime la prière. Mon cœur, c'est qu'aujourd'hui, vous vous décidiez que non seulement vous voulez avancer physiquement dans votre destinée, mais que vous prenez ce pas, cet engagement dans la prière. Un peu plus qu'hier. On a toutes des vies occupées. On s'occupe toutes. Mais je vous encourage, sous-estimez pas l'impact de la prière sur votre destinée. Le 1er octobre jusqu'au 21 octobre, je lance un jeûne. Et je vous en parle rapidement. Un jeûne de Daniel. Un temps de prière mis à part, mais spécifiquement pour notre nation. Et ça prend plus que moi. Ça prend plus que juste nous. Mais autant qu'on a un mandat de prier les uns pour les autres, on a aussi un mandat de prier pour nos autorités, pour notre gouvernement. Et trop souvent, au Québec et au Canada, on a été sur la banquette arrière à dire, ben c'est comme ça que ça va. On n'a pas de recours, mais je veux vous inviter à prier et à jeûner pour le Canada, pour le Québec, pour le gouvernement, pour nos dirigeants. Et de prendre, mettre à part un temps et dire, OK, j'ai 21 jours, je vais mettre à part un 20 minutes, une demi-heure, une heure par jour à prier pour avoir les pensées de Dieu pour cette nation, pour avoir les pensées, le cœur de Dieu pour le Québec. Et je veux vous en parler, je pense que je vais inviter, Joe, je vais t'inviter. Je m'excuse, je ne savais pas que je voulais que je partage ça, mais l'an dernier, on a eu un GU et on a eu une conférence. Et après la conférence, le dimanche suivant, j'ai eu un texto de Cindy Jacobs qui m'a dit « Le restant du monde attend que les Canadiens se lèvent et qu'ils prient. Parce qu'on sait que le réveil va découler de vous à l'Amérique du Nord, au Mexique, l'Amérique du Sud. » Puis là, elle m'écrit cette question. C'est quoi toi tu vas faire? Puis ça m'avait tellement secouée parce que ma première pensée, c'était, « Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? » Je suis même pas, puis Seigneur, pardonne-moi d'avoir pensé ça, mais je me suis dit à ce moment-là, je suis même pas canadienne, je suis québécoise, c'est au Canada, tu sais. Et à ce moment-là, on était à côté dans la prière et le Seigneur m'a amené dans une vision où que je me suis vue sur un mur. Et tout autour, c'était des champs complètement vides. Il n'y avait rien jusqu'à ce que les tu voyais rien. Puis, j'ai entendu quelqu'un, puis moi, j'étais là comme un garde un peu, puis je me tenais là, j'étais à mon poste. J'ai entendu quelqu'un en bas du mur qui commence, il y avait comme une échelle, qui cognait, puis il se met à cogner, puis j'entends crier, « Hey! Qu'est-ce que tu fais? » Je regarde en bas, puis « Hey, qu'est-ce que tu fais? Déniaise, regarde! » Puis là, je vois c'est Cindy Jacobs. Puis je le sais que c'est mon général. Je le sais que c'est mon autorité, si je peux dire ça comme ça. Moi, je suis habillée en soldat, je suis sur ce mur-là. Et je sais qu'elle est en train de me dire « Mets-toi à ton poste. » Puis elle me dit, regarde et vois, c'est toi qui es sur le mur, c'est ton tour. Puis je suis sortie de là, puis je sanglotais. Puis je savais que c'était pas juste à moi cette vision-là. Je savais que c'était un appel à chacun d'entre nous. Je savais que c'était un appel aux gens du Québec. À se lever et à se tenir et à veiller, à prier, à se tenir, mettre en position. Et depuis ce temps-là, ça brûle sur mon cœur. Je prie et je me prépare pour les élections de cette année. Mais mon cœur, je sais que comme Élie a prié pour que la pluie arrête, il a prié avec insistance, je crois qu'il y a une prière qui doit se lever du Québec pour qu'il y ait une atmosphère qui change. Pas juste au Canada, mais sur au-dessus du Québec. Et pour ça, ça prend des hommes et des femmes qui se lèvent et qui prient. Et je voulais vous inviter à vous joindre à moi dans ce 21 jours. On va avoir à tous les jours sur Instagram des directions qui vont être lancées. Il va y avoir des lives qui vont être faits. On va avoir aussi des... On l'ouvre à la région parce que ce n'est pas juste à propos de Oasis, mais on veut aller à la maison de prière à l'église de Sans Frontières tous les mardis jusqu'au vendredi. Ça va être ouvert de 6h à 8h le matin. On veut se rallier ensemble pour prier pour notre nation. Et je veux vous inviter parce que la prière du juste est efficace. La prière du juste est efficace. L'ennemi nous a endormis sur la puissance de la prière. L'ennemi nous a fait comprendre que c'est juste du chialage à Dieu quand on a un problème. Mais c'est un échange. Oui, peut-être que tu peux partager ton cœur, mais Dieu veut nous donner son cœur. Il veut nous donner son cœur par rapport à nous, mais c'est tellement plus que nous. C'est pas juste à propos de moi, mais c'est à propos de ce qu'il veut faire au Québec, au Canada, et le réveil qui s'en vient.
Fait que l'appel est lancé. On va en reparler des prochaines semaines. Mais pour vivre avec ma femme depuis un an, depuis 22 ans, mais dans la dernière année, je crois que le Seigneur a vraiment déposé cet appel de prier pour le Canada et les prochaines élections le 21 octobre. On a besoin d'un shift du leadership au Canada. Ou du moins, on a besoin d'un mouvement de Dieu dans le leadership présent. Peu importe ce que Dieu veut faire, le résultat ne nous appartient pas, mais la demande est de prier pour nos autorités, de prier pour la paix dans notre pays, Et ce mandat-là est de 21 jours, du 1 au 21. Et on va vous encourager de sauter avec nous dans l'aventure. Si l'Église du Québec et si l'Église se lève pas, qui va se lever? Allô? Si on est chrétien, on ne se lève pas, qui va se lever? Et des fois, il y a des cris de guerre qui doivent s'installer à s'encourager pour la prière et l'intercession pour notre nation. Amen. Fait qu'on vous encourage. Fait que rappelez-vous, pour avancer dans votre destinée, de prier, parce que c'est la chose la plus importante. J'ai aimé ce que tu as dit, ta destinée avance au pas de ta prière. Pouf! Comment on aurait des gens de prière? Prenez des décisions qui glorifient Jésus. Dur, pas dur, peu importe, alignez-vous avec le cœur de Dieu. Et troisième chose, choisissez des relations, choisissez une tribu qui vous propulse pour Dieu, qui vous bâtit, qui vous encourage, qui vous dit la vérité dans l'amour, mais qui voit le trésor que Dieu a déplacé en dedans de chacun d'entre nous. Amen. On peut-tu se lever de vous et finir en prière ce matin? Est-ce qu'on peut se coller dans les rangées et se prendre main par la main, comme dans le bon vieux temps, là? Quand le pasteur disait, ouais, ça, prenez-vous par la main.
Qui se rappelle du chant « Nous sommes un dans un lien d'amour » hein, quand on faisait ça?
Hallelujah. Papa, dans le nom de Jésus, on te remercie pour les plans, les projets, les rêves. Seigneur, tout ce que tu as planifié d'avance afin que nous marchions. Seigneur, comme on a entendu ce matin, on veut venir devant toi afin d'échanger toutes nos perspectives humaines pour avoir des perspectives divines et marcher dans la recréation en Jésus que tu nous as donné et faire la différence, papa. Je prie qu'Oasis se lève, Seigneur, non seulement comme des enfants de Dieu, mais se lève comme des guerriers, Seigneur. Se lève comme des enfants de prière qui se tiennent à la brèche pour la nation, Seigneur. Qui se tiennent à la brèche pour un changement, papa. Seigneur, tu dis, Seigneur, que Seigneur, si on a la foi, comme les graines de semences ou de moutarde, Seigneur, on peut déplacer des montagnes, Seigneur. Il y a de la puissance dans la prière, Seigneur Dieu. Et Père, Seigneur, je te prie, Seigneur, que chacun d'entre nous, on puisse avancer, Seigneur, sans relâche, Seigneur, dans la destinée, la carrière que tu as mis devant nous, dans l'appel que tu as mis devant nous. On veut courir la course, mais on ne veut pas la courir seul. On veut la courir tous ensemble. C'est pour ça qu'on se tient la main, Seigneur, ce matin. C'est pour dire ensemble, on court ensemble. Ma course me préimporte, mais ta course me préimporte encore plus, Seigneur. Parce qu'on veut que chacun réussisse. On est un corps, on veut se tenir ensemble. On veut être ton corps, Seigneur, que tu diriges. Dans le nom de Jésus, papa. Amen. 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 On vous aime. Merci. Merci pour tout. Demain soir, tea party, part-été chez Sam et Emily. On se voit la semaine prochaine. J'ai un super message que Dieu commence à déposer. Samedi, les coupes, allez vous inscrire. Le GU, allez vous inscrire. Allez voir Janive dans le lobby. Et la semaine prochaine, ça va être le creuset qui façonne ma destinée.
Vous venez d'écouter un podcast audio d'Oasis Église Rive-Sud. Vous pouvez retrouver les messages et suivre en direct nos dimanches sur notre chaîne YouTube. Également, nous suivre sur Facebook et Instagram. N'oubliez pas de consulter notre site internet à église-oasis.ca.